over. The long wait is over. After 47 years, the Denver Nuggets can finally call themselves NBA champions.
Terry to Nowitzki, puts up the three, puts it in.
The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history.
It's over. It's over. Cleveland is a city of champions. The Cavaliers are NBA champions. The emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown.
Alors, dans cette partie historique, là, on va vraiment apprendre des choses parce que on a décidé d'aller dépoussiérer un peu les livres d'histoire en parlant d'une franchise qui a eu un titre de champion. Comme Denver, Denver faisait partie de ces équipes jamais titrées, et puis donc Jokic a changé tout ça. Et ben, il y a pas mal finalement de franchises qui ont un seul titre et qui ensuite n'ont pas réussi à confirmer. Du coup, c'est des histoires qu'on connaît peu. On va démarrer, attention, par le titre de Washington en 1978.
Arnaud. Est-ce que je peux faire une entorse et demander à Félix de démarrer parce qu'il a pris la saison d'avant?
D'accord.
Pour que ce soit chronologique. Et ben, si tu n'y vois pas d'objectif,
Portland de 1977.
Ouais, parce que récemment, dans un podcast sur les Spurs, on avait parlé d'une stat dans un débat. On essayait de savoir si San Antonio pouvait être champion dès cette année, après avoir loupé les playoffs l'année précédente. Et on avait vu qu'il n'y avait que trois équipes dans l'histoire qui l'avaient fait. Les Lakers en 2020, les Celtics en 2008. Et donc, les Portland Trail Blazers en 1977. Donc, on va se pencher sur cette équipe des Blazers qui est une certaine anomalie de l'histoire. Donc, la saison 76-77, c'est la première saison de la fusion entre la ABA et la NBA. Les champions en titre, c'est les Boston Celtics. Pour changer, c'est un peu inévitable à ce moment-là. Et les Blazers, eux, ils restent sur une saison plutôt moyenne avec 37 victoires et 45 défaites. Pour la saison 76-77, les deux gros changements en effectif, c'est l'arrivée du coach Jack Ramsey qui arrive de Buffalo, qui était en ABA, et de Maurice Lucas qui était un puissant poste 4 qui tournait en 15 points 10 rebonds, qui était du côté de Kentucky en NBA.
On sort des blases que personne ne connaît.
Mais Maurice Lucas, c'était son surnom, c'était l'enforceur, Pierrot. Donc ça donne une idée de son profil. Bah, il enfonçait les gens, quoi. C'était,
c'était un peu Fred Weiss.
Sinon, l'équipe s'articulait autour de la star, là tu vas connaître, Pierrot, Bill Walton. C'était une sorte de Jokic avant l'heure dans ce rôle de passeur génial au poste de pivot. C'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en parler.
L'idole de Fred.
L'idole de Fred. Et donc c'était aussi intéressant d'en parler dans ce podcast spécial Nuggets. Sinon, autour de Bill Walton, il n'y avait aucun nom ronflant, que des role-players comme le meneur Lionel Hollins. Là, pareil, tu vas me dire si tu connais Pierrot. Mais, et l'ailier couteau suisse Bob Gross. Donc voilà, c'est pour l'effectif. La saison régulière, elle est plutôt bonne pour Portland. Il termine avec 49 victoires pour 33 défaites. Donc ça fait 12 victoires de plus que la saison d'avant. C'est un bon pas trop mal en termes de victoires. Et en play-off, la machine va peu à peu se mettre en marche. Au premier tour, qui se joue à l'époque au meilleur des trois matchs, ils sortent les Bulls 2 victoires à 1. Au deuxième tour, ils sortent Denver 4 victoires à 2. En finale de conf, ils sweepent 4-0 les Lakers de Kareem Abdul-Jabbar, qui était alors double MVP de saison régulière et qui était au sommet de son art. Et donc là, on arrive au final NBA contre les Sixers, qui était le meilleur bilan de la saison régulière et qui était emmené par un certain Julius Erving, qui était en feu total sur ses playoffs, qui était le meilleur marqueur des playoffs. Et la finale NBA, elle commence très mal pour les Blazers. Ils sont menés 2-0 après les deux premiers matchs. Donc là, on se dit que la logique va être respectée, que la marche est trop haute pour Portland à cause du manque d'expérience et que les Sixers, ils vont tout droit. Et là, on a une bascule improbable. Portland, qui était mené 2-0, renverse tout et gagne les 4 matchs suivants pour devenir champion NBA en gagnant 4-2. Au match 6, pour clôturer la série, Bill Walton est au sommet de son art avec une ligne de stats incroyable. Donc sur le match 6 pour les Sacrés, il est à 20 points, 23 rebonds, 8 contres et 7 passes. On n'est pas loin d'un quadruple double exceptionnel. Mais le pivot, c'est loin d'être le seul parce que la force de Portland, c'est avant tout un collectif magnifique. Et c'est Julius Erving en personne, donc le finaliste malheureux, qui a résumé le mieux la chose après la finale. Il a dit, je cite, « Le basket est un sport qui se joue à 5 et les Blazers le pratiquent comme s'ils l'avaient inventé. » C'est pas mal quand même comme petite phrase sur une équipe qu'on connaît
pas trop. C'est pas du Gary Lineker, mais ça ressemble.
Derrière, on se dit que ce basket ultra collectif autour d'une star comme Bill Walton va rouler sur la ligue pendant des années. Mais cette équipe-là ne retournera plus jamais en finale NBA. Ils ne passeront même jamais mieux qu'un deuxième tour des playoffs dans les années qui suivent, notamment à cause du corps trop fragile de Bill Walton, qui connaîtra en tout 4 saisons blanches avant de prendre sa retraite 10 ans plus tard. Ouh. Et c'est ce qui participe à rendre ce titre encore plus mythique, parce que personne personne ne l'avait vu venir. C'était une sorte de parenthèse enchantée pour une franchise qui, derrière, va quand même sacrément manger son pain noir.
C'est un vrai espoir pour Joel Embiid. Alors, attends, je pense qu'il y a une erreur dans ton récit. Oui. Tu nous as dit qu'ils ont sorti les Bulls au premier tour.
Oui.
Ce qui me semble impossible. Si... C'est pas les Bullets plutôt, non ?
J'avais les Bulls.
Ah bah, Bullets non plus, pas possible.
Non, c'est pas les Bullets.
Bulls, c'est à l'est quand même.
J'avais les Bulls. Dans, je vais vérifier parce que sur Basket Ref dans le
peut-être
truc, c'était les Bulls.
Il y a des changements de.
Alors il y avait des problèmes de compte parce que tu vois, moi les Spurs sont à l'est. En fait, c'était 77-78.
De ce que j'ai vu, c'était des divisions. Il y avait quatre divisions. Okay, en fait.
Peut-être que le tableau n'était pas fait est-ouest à l'époque. Ah, vérifier.
Je vais vérifier. Je te dis ça juste après. Juste après le récit.
Tu nous écoutes vraiment.
Bah, c'est le but. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire de Portland.
Portland, Denver. Portland, Los Angeles, ouais, et Philadelphie, Portland en finale NBA.
Ok, donc c'était pas.
C'est un système de division un peu chelou. Okay.
Alors à toi, Arnaud. Donc l'année suivante, c'est Washington.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Il fallait bien du Charles Aznavour pour vous dire que Washington a été une équipe de play-off, a été une équipe championne NBA en 77-78. Ils ont fait finale en 1975, perdu contre les Warriors de Rick Barry. Et donc, je vais vous parler de cette équipe qui marche bien dans les années 70 avec un entraîneur, Dick Motta, qui a ensuite entraîné les Dallas Mavericks. Il fait partie du top 10 des coachs à avoir coaché le plus de matchs en NBA avec plus de 935 victoires pour Dick Motta, qui est toujours vivant. Et donc, dans les années 70, c'est aussi le recordman des fautes techniques dans cette décennie-là. Il en a pris près de 400.
Le coach.
Et Dick Motta a eu cette phrase dont la paternité est un petit peu en discussion. Nous sommes en finale de conférence contre les Spurs. Les Spurs mènent 1-0. Et là, il y a un commentateur des Spurs qui sort cette phrase. Et Dick Motta l'a ensuite ressorti parce que Washington a gagné cette série 4-2. Et cette phrase, « The opera ain't over until the fat lady sings ». C'est l'équivalent chez nous. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Alors, je vous fais la traduction. C'est « L'opéra n'est pas fini jusqu'à ce que la dame corpulente finisse de chanter ». Et donc, c'était Monsieur Bonmot, Dick Motta. Et donc, il a gardé cette phrase tout au long. Et dans cette équipe, on retrouve le leader, c'est Elvin Hayes, épaulé par Wes Unseld.
Voilà des noms qu'on connaît.
Unseld, on connaît. Ouais.
Unseld, les deux, oui. Pourquoi tu le connais, Wes Unseld ? Parce qu'en 1969, il est drafté, il est rookie de l'année 69 et MVP égalant un certain Wilt Chamberlain.
Sérieux, là ?
Il retrouve Seattle en finale. Pourquoi ? Parce que Portland, qui a fait une super saison en 50-10, met l'ami Bill Walton MVP est blessé. Il n'est donc pas là, donc out Portland. C'est donc Seattle qui arrive. Et là, ça va aller en 7 matchs. C'est hyper serré. Après le match 4, on est à 2-2. Match 5 à Seattle. Et là, les droits, c'est CBS qui a les droits. Écoutez l'intro de l'époque. On voit qu'on est bien dans les années 70.
He's known as the Big E, Elvin Hayes of the Washington Bullets, and he's hitting better than 50% from the floor in this NBA Championship Series. And the young, talented center of the Seattle Supersonics, Marvin Webster, is the leading rebounder, pulling down more than 13 a game. They'll be matched. It's game 5.
Oh yeah! En prévant le Big E, Elvin Hayes, 21 points, 12 rebonds sur la finale. En face, le jeune Marvin Webster, le meilleur rebondeur de Seattle. Finalement, alors Seattle va gagner le match 5, mener 3-2, mais Washington va tout renverser, va aller gagner le match 7 dans l'état de Washington. Pour Washington, c'est Bob Dandridge, autre joueur important de cette équipe, 19 points. Sachez qu'on précise qu'à l'époque, la ligne à 3 points n'existe pas. On est sur une NBA vraiment old school qui vient de fusionner avec l'ABA, comme a dit Félix. Unsell figure dans l'équipe NBA des 75 ans, alors qu'il était qu'à 8 points et 13 rebonds, mais son surnom, c'était l'incroyable Hulk. Il est fini MVP des finales alors qu'il n'est pas du tout le meilleur marqueur de sa formation. Mais ils avaient une raquette monumentale, Wes Unseld. D'ailleurs, son fils, Wes Unseld Jr., était coach des Wizards il y a 2 ans. On a changé en 97 parce qu'on ne voulait plus avoir les Bullets qui rappellent une arme. Donc Washington est devenu les Wizards. C'est un peu bête quand on sait que Gilbert Arenas a joué pour cette franchise après. Ça aurait collé. Donc voilà, pour ce titre des Washington Wizards qui fera finale perdue contre Seattle l'année d'après. Unsell est dans l'équipe NBA des 75 ans, Hall of Famer, tout comme Elvin Hayes.
Et depuis, qu'est-ce qu'il y a eu comme période intéressante pour les Wizards?
Alors, aucune, parce que tu sais que...
Jamison, c'était correct, mais ça n'a pas fait non plus...
Avec John Wall, mais bon, ils ont fait juste un tour de playoff.
Avec Paul Pierce, là, quand il y avait John Wall, Paul Pierce, Bradley Beal...
Mais bon, c'est jamais
genre trop 2015,
loin.
Ils passent des tours.
C'est jamais trop loin. Il y a Carmelo aussi à un moment. Je sais pas si c'est cette. Il y a pas Carmelo.
Carmelo Wizards.
Non, je confonds. Ouais. Je confonds. Et juste 79, c'est la dernière saison à plus de 50 victoires pour les Wizards depuis. Rien.
La tristesse.
Très bien. Voilà pourquoi c'est important de parler de temps en temps de ces franchises. Et donc on va finir avec.
C'est des belles années pour Fred, hein, 77, 78.
On connaît mieux l'histoire de Cleveland 2016 et pourquoi as-tu choisi de nous parler du titre de Cleveland avec LeBron?
Ben en fait, quand ils m'ont parlé de 77, 78, je me suis dit...
Que t'as connu ?
Je vais essayer de regarder une franchise qui, en 76, pouvait faire des trucs, une finale de conf, qu'ils ont perdu contre Boston. Mais Cleveland, quand LeBron arrive en 2003, pour le premier tour de draft, tu te dis, allez, ça y est, on va enfin changer, on va changer cette lose, parce qu'eux n'avaient jamais gagné. Je te dis, mis à part cette finale de NBA... finale de conf, pardon, contre Boston, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des conférences.
Une franchise qui ne comptait pas.
C'est une franchise qui n'avait aucune importance. Et effectivement, quand tu draftes le numéro 1, quand c'est LeBron, quand tu as un joueur de ce calibre-là, bah, tu vas commencer à te prendre à rêver. Ils vont se prendre à rêver. Ils vont arriver jusqu'à une finale perdue contre San Antonio, 4-0. Et après, The Decision et un passage à Miami avec les Tres Amigos, soldé par deux titres pour LeBron, 2012-2013. Bah, LeBron va revenir. Il va revenir, même si Dan Gilbert disait que les Caps pouvaient gagner sans lui, ils sont bien contents. Ouais. Du côté de Cleveland, que LeBron revienne.
Si un mec a eu un impact sur une franchise, c'est bien lui à Cleveland.
Et, évidemment, et donc ça va bien se passer d'entrée. Ils vont faire une finale contre Golden State. Ils vont même mener 2-1, après perdant les trois matchs suivants. En 2015-2016, les Caps sont menés 3-1. Match 5, LeBron et Kyrie, qui jouent ensemble à cette époque-là, vont marquer 82 points à eux deux. Donc ça veut dire que, bah, clairement, ils étaient motivés. Ensuite, à la maison, ils égaliseront à 3-3. Et match 7 à l'Oracle Arena, tout le monde se dit, bah, logiquement, Golden State va gagner. Maintenant, on n'avait jamais vu une équipe revenir d'un 3-1. Et donc, le match est quasiment égalité, il reste une minute. Et là, LeBron va faire une des actions défensives les plus importantes de l'histoire, un compte sur André Iguodala.
Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection.
Oh, le scotch. Non,
on parle beaucoup du compte de Nico Batum, celui-là était aussi extrêmement impressionnant. Dans la foulée, Kyrie Irving va mettre un panier à 3 points et cette équipe de Cleveland va gagner son premier titre. Un premier titre pour les Cavs, mais surtout à LeBron racheté, qui va tenter encore un petit peu de jouer. Il va jouer deux fois une finale contre Golden State après. C'est-à-dire qu'il va perdre la première 4-1, il va perdre la deuxième 4-0.
Et KD, qui est revenu après.
Et oui, en plus. Donc ça devenait vraiment compliqué. Et là, LeBron va partir à Los Angeles. Et en fait, j'ai voulu choisir cette histoire parce que déjà, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans. Bon, pour moi, ça paraissait beaucoup plus proche. Et en plus, on parle de plus en plus de voir LeBron retourner aux Cavs pour essayer de finir l'histoire. Et j'aimerais voir ça.
Mais
en fait,
clairement, sa carrière ne serait pas la même sans ce titre.
Mais hein. Ce titre change tout à sa carrière.
Tout.
Parce que le titre des 13 Amigos, ok, c'est cool, mais c'était une très bonne équipe.
Los Angeles, la bulle.
Et j'ai envie de dire même comment ils font pour ne pas gagner plus, en fait, finalement, cette équipe. Los Angeles, la bulle, c'était après. Donc, pour moi, ça a moins d'importance, mais c'est vrai que ce retour aux sources, le fait de ramener un titre dans cette franchise, dans cet état...
C'était l'élu pour Cleveland, sinon
exactement.
Ça n'avait pas...
Et surtout dans cet état, qui n'avait jamais gagné aucun titre majeur. Donc c'était quand même quelque chose d'incroyable,
d'exceptionnel. T'es capable de conjurer un tel mauvais sort, c'est que t'es un grand champion.
C'est un loser magnifique.
Tu peux pas le faire. C'est le plus beau titre pour l'instant NBA du 21e siècle.
Ben oui, bien sûr.
Ah oui.
Les Raptors, non ?
Les Raptors, c'est beau aussi, mais... Mais LeBron,
non, c'est... Ouais, 2016, il y a tout, l'histoire, le combat.
Le déficit de 3-1, le match, le contre. Kyrie qui cross Curry, ouais. Qui va te mettre à 3 points.
L'adversaire, les Warriors qui étaient remplis en dynastie, tu vois, genre c'est tout est parfait.
Les Warriors qui étaient à deux doigts de gagner et qui auraient pu enchaîner 4 titres de suite, quand même.
Tout à fait.
Et en plus, ça a amené après, du coup, Kevin Durant qui signe juste derrière.
Toute l'histoire de la NBA a été chamboulée.
Très bien. C'est le moment le plus important de l'histoire de l'NBA que vient de nous raconter Fred, peut-être.
Peut-être.
Non, l'histoire récente, allez.
Bah, l'histoire de l'NBA, pas loin, franchement. Non,
ouais. Sans LeBron James, c'est lui tout seul, l'histoire de l'NBA.
Pas loin, parce qu'effectivement, t'as l'enchaînement avec KD qui va là-bas. Donc ça change quand même aussi l'image de la NBA. Enfin, bon,
c'était
pas
un excellent choix.
Et on se souvient du Cleveland, this is for you.
Ah, il le fait pas mal, Arnaud. Hein. Allez, on finit par le quiz.